Commencer par dire, la semaine dernière, on n'était pas là. Évidemment, j'ai encore pogné une grippe d'homme, une énorme grippe d'homme.
La science est de ton côté là-dessus, Gab. C'est correct.
Oui, je sais, j'ai vu. Il y a eu un article qui est apparu qui, en fait, il fait le tour plusieurs souvent, là, que les hommes ont effectivement des grippes plus virulentes.
Oui, parce que la testostérone, c'est ça que ça fait. Ça rend la grippe plus méchante. Fait que... C'est ce qu'on pourrait appeler la toxic masculinity.
C'est exactement ça. Faudrait faire une étude là-dessus. Donc, il s'en est passé des choses dans les dernières deux semaines. En fait, moi et Charles, on a eu beaucoup de plaisir à échanger sur Facebook. Puis pour ceux qui nous suivent, qui suivent la page québécois sur Facebook, ils ont vu qu'on a quand même mis quelques articles dans les dernières semaines. On va commencer par notre préféré, notre chère mairesse de Montréal.
La première femme!
La première femme! Wouhou! Puis tu sais, puis... En tout cas, j'aurais pu faire une joke plate sur le magasinage, là, mais elle dépense, puis elle monte les taxes. Elle fait ça, elle. Elle monte les taxes.
Mais c'est vrai que non seulement elle monte les taxes, en soi, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord, mais c'est pas un problème en soi. C'est tout... C'est l'exercice de communication médiatique bâclé, là, qui prend les gens pour des caves. Mm-hmm. Ils pensent vraiment que la population... va accepter de se faire raconter n'importe quoi. Si, puis, quand elle est passée en entrevue à RDI, on lui a dit, ben, si vous voulez augmenter les taxes, dites-nous pourquoi, dites-nous à quoi ça va servir, puis on va comprendre rationnellement pourquoi il faut faire ça, puis pourquoi c'est mieux que tel autre scénario que vous avez envisagé. On va arriver à un consensus et on passe à autre chose. Ouais. Mais là, c'est d'essayer de dire, non, mais j'ai quand même rempli ma promesse, même si les mathématiques, là, disent que non, elle n'a pas rempli sa promesse. Et le fait qu'elle s'entête, je pense que c'est ça qui pose problème. Pour une personne qui disait faire de la politique différemment, elle montre le même niveau, pour reprendre les propos des journalistes, là, d'arrogance ou d'intransigeance qu'on reprochait à l'administration Coderre.
C'est mal parti en maudit. T'sais, écoute, elle a fait campagne sur une plateforme complètement différente de ce qu'elle fait en ce moment. Je veux dire, c'était supposé d'être un vent de fraîcheur, c'était supposé d'être ci, être ça. Écoute, à date, on s'enligne pour exactement la même chose que les autres. Puis peut-être même pire, en fait. Parce que là, ce que ça montre, c'est que non seulement elle a fait des promesses bizarres, mais elle est peut-être, selon moi, encore moins digne de confiance que ce qu'on avait là avant. Au moins avec Coderre, on savait à quoi s'en tenir. Là, moi, ça m'inquiète un peu là, de voir comment c'est parti.
Donc, c'est pas surprenant qu'une formation politique qui éprouve la difficulté à chiffrer ses promesses de campagne arrive en poste et fasse un peu n'importe quoi. Moi, je le voyais venir. Mais je disais quand même, laissons la chance.
Ouais, hein, mais avant l'élection, on l'avait dit souvent. Ouais. Que c'était pas tenable ce qu'elle racontait. Là. Moi, je suis pas énormément surpris. Sauf que c'est pire, par contre, que ce que je pensais. Je pensais pas que ça allait aller aussi rapidement vers le fond.
Il y a déjà des analystes qui disent « l'heure est au bilan ». Elle a été élue en novembre.
Wow!
Non, elle se fait quand même rentrer dedans solide, là.
La lune de miel avec les médias n'aura pas duré longtemps.
Ben, ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que dans la dernière campagne, on l'avait noté, ben oui. La forme du discours médiatique l'avantageait systématiquement vis-à-vis Coderre, et comme de fait, toutes les photos d'elle étaient rayonnantes, souriantes, au point où on en riait un petit peu, mais on disait, ben, c'est sexiste, fait qu'on peut pas rire d'elle. Mais là, aujourd'hui, qu'elle est devenue impopulaire, toutes les photos d'elle, là, elle fait exactement la même face que celle de Nicodère.
Mais ça, c'est... je trouve que c'est un manque d'éthique journalistique. C'est un choix là, que les éditeurs font.
Oh oui.
Ils manipulent la population par les images. C'est de la manipulation d'opinion, puis de la manipulation de perception des gens. Fait que laissez-nous faire nous autres-mêmes notre propre opinion, puis présentez-nous les faits. Mais en faisant cette espèce de manigançage-là, avec des photos souriantes durant la campagne, puis des photos plates après la campagne, c'est injuste envers la population, puis d'une façon, c'est injuste envers les politiciens aussi. Parce qu'on laisse pas leurs actions parler d'elles-mêmes. Parce que si peut-être si on n'avait pas fait une si belle campagne médiatique avec des photos puis des beaux clichés durant toute la campagne électorale municipale, elle serait peut-être pas élue. T'sais? Fait que je trouve que c'est ça le problème. C'est parce que ça devient une manigance, c'est un manque d'éthique. En bout de ligne, moi, c'est ce que je pense. Les journalistes, ils doivent quand même essayer d'avoir un certain niveau de contrôler leur biais puis d'être neutre autant que possible. Je comprends que c'est pas possible d'être 100% neutre, là, mais plus flagrant que ça, là, commande, c'est difficile à manquer.
Je me trompe pas, il y avait un... Ça, c'est quelque chose... Je suis assez critique des sondages et ce genre de couverture médiatique-là. Je voudrais vérifier. C'est soit l'effet H ou l'effet Forer, mais dans tous les cas, c'est une expérience qui montrait la suggestion puis à quel point les gens sont influençables par l'information qu'on leur projette. Mm-hmm. Et le test, si je me trompe pas, c'était... Les gens étaient face à 5 bâtons de différentes longueurs. Puis évidemment, tout le monde dans la salle était de mèche avec l'équipe de chercheurs. Puis il y avait une personne qui était véritablement évaluée. Et les gens donnaient en majorité une longueur de bâton qui était supposément la plus longue, qui était erronée, qui était visiblement erronée. Mais tu avais 30% des gens qui, plutôt que d'affronter la majorité, le poids de l'opinion des autres, se rangeaient à leur avis. Puis on leur posait la question ensuite. Est-ce que vous saviez c'était lequel, le bâton le plus long? Puis il disait, oui, mais je voulais pas, je voulais pas avoir de problème. Puis...
Mais ça, ça fait partie de l'instinct tribal de l'humain. On a encore cet instinct-là de vouloir participer à notre tribu. On veut s'associer derrière, on veut être partie du groupe. C'est un ancien mécanisme de survie qui reste du temps qu'on habitait dans des cavernes, mais ça se manifeste différemment maintenant dans une société moderne. Puis donc, si on peut évaluer à 30%, mais 30% d'une population, c'est assez pour faire un effet dans une élection ou dans beaucoup de situations, en fait. 30%, ça peut amener une majorité d'un bord ou de l'autre.
Oui, c'est que les médias ont beaucoup d'impact la façon dont ils présentent l'information.
Ouais.
Et là, au premier coup d'œil, on sait que c'est une mauvaise nouvelle parce que la photo de Mme Plante est un air bête.
Ouais.
on le sait. Puis le titre suggère une conclusion qui, des fois, n'est pas tout à fait celle que le corps du texte conclut. Petite parenthèse, c'était l'effet H. Forer, c'est sur les tests de personnalité, okay. C'est notre affaire.
Mais, tu sais... Puis ça, c'est un valide point. Là. Tu mentionnes les titres. Hey, on faut plus se fier aux titres. Les titres sont carrément rendus mensongeurs. J'ai remarqué, spécialement dans les derniers 6-7 mois, je dirais, les titres souvent sont écrits de sorte à te laisser sous-entendre un sens à un article. Puis quand tu lis l'article, tu réalises, mais c'était pas ça pantoute.
Ça fait plus longtemps que ça.
Oui, mais c'est vraiment...
C'est exacerbé, je suis d'accord.
Oui, je trouve qu'on a atteint un niveau complètement débile. Puis là où c'est le fun, c'est quand tu vas regarder dans les commentaires Facebook, t'es capable au bout de 3 commentaires de tout de suite savoir qui a lu, qui n'a pas lu l'article, parce que c'est clairement... Il se fie clairement sur le titre, puis c'est suffisant. La plupart du monde, là, lire le titre, c'est assez d'effort intellectuel pour eux, fait qu'on s'arrête là. Fait que c'est dangereux, ça. Si déjà, avec la photo, tu mets n'importe quoi, ou tu as une idée derrière la tête quand tu mets la photo pour faire avancer ton idée, puis en plus, avec le titre, puis là, les gens s'enflamment, c'est fort, ça, comme manipulation, là. Je sais pas, mais comment... Peut-être que c'est moi qui est trop... peut-être que je vois trop les choses avec un côté éthique, mais je serais pas capable de dormir le soir, moi, de travailler pour un journal, puis de faire des conneries de même, puis d'induire une population en erreur. Je me demande comment ils font pour... tu sais, dormir la nuit, étant conscient du fait qu'ils ont carrément induit toute une population en erreur. Ça j'en viens pas, là. Mais ça a de l'air. Moi, je trouve que dans notre société, on en a de plus en plus en ce moment de ces situations-là. Puis c'est vraiment terrible. Puis il faut, c'est à nous, en fait, à se réveiller puis à refuser que ça se continue.
Oui, mais moi, souvent, quand je vais lire des articles épais, là, je vais écrire au journaliste pour lui demander soit ses sources ou soit lui en soumettre certaines qui vont à l'encontre de sa position. J'ai rarement des réponses. Mais il y a quelques fois où je passais pas loin de monter ça au conseil de presse. Parce que ça allait... Il y en avait eu un, justement, sur... ça remontait, je pense, à 2011. C'est dans la presse. Et l'article mentionnait que... C'est un éditorial, je me souviens plus. Est-ce que c'était André Pratt? Je pourrais te le retrouver et peut-être le mettre. C'est quand même assez intéressant. On défendait le pipeline Keystone XL. Hein, et on citait la revue Nature, qui concluait qu'il n'y avait aucun impact environnemental derrière ce projet-là, et qu'il fallait donc aller de l'avant. Et je pense que ça m'en compte, ce projet-là, mais c'est quand même une affirmation de nature factuelle, puis il faut pouvoir la vérifier. Ouais. Et là, moi, il me citait Nature, qui concluait qu'il n'y avait aucun impact environnemental, et j'étais un instant, je suis abonné à Nature. Fait que je suis allé à ma boîte aux lettres, je suis allé chercher Nature, je suis allé voir l'étude, et eux concluaient plutôt que c'était bon pour les États-Unis, parce que l'essentiel des zones à risque était au Canada. Et donc, ils concluaient pas sur la nature du risque environnemental au Canada, mais seulement sur celui aux États-Unis. Donc, l'article de la presse était factuellement erroné, ça, citait incorrectement une revue scientifique. J'ai écrit au journaliste, et aucune réponse. Et c'était malhonnête intellectuellement, au point où je l'ai quasiment monté au conseil de presse, mais... J'étais bien occupé, j'avais pas le temps, donc honte à moi et tous mes descendants. Mais le point, c'est qu'il faut rester vigilant.
Mais déjà que tu as écrit aux journalistes, c'est plus que la plupart des gens vont faire. Mais la plupart des gens aussi ne savent peut-être pas. T'sais. Je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde qui lit ces articles de journaux. Puis, tu sais, oui, on a été enfin conditionnés à penser pendant longtemps que les journalistes étaient là comme un peu les gardes de la société, tu sais, pour être là pour mettre les politiciens en check, puis s'assurer que, tu sais, que le mal soit pas fait. Mais là, en ce moment, si le journalisme est rendu à tel point qu'on peut même plus leur faire confiance, ça veut dire que nos élus, nos juges, nos policiers, nos pompiers, tous ces gens-là qui dépendent, en fait, du monde public, il n'y a plus rien pour nous protéger. On n'a plus cette voix-là qui est là pour nous défendre ou pour nous avertir. Pour nous dire, hey, check-lui! Parce que là, en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Là. C'est, en tout cas, c'est pour ça que Trump, en quelque part, tu sais, j'aime bien chialer contre lui, là, mais il y a un point qui fait que je trouve qui est intéressant quand il parle about le lying media, là, puis le fake news. Moi et lui, on n'est pas d'accord sur lesquels qui sont fake, mais je trouve que son point est valide pareil. Mais c'est sûr que lui, il va dire que la BBC, puis le Washington Post, puis le New York Times, c'est de la merde, mais moi, je dis, tu sais...
Suite au discours d'Oprah Golden Globes, il y a la station NBC, là, la station de nouvelles NBC, qui a tweeté... Oprah sera notre prochaine présidente, puis il l'endossait officiellement. C'était vraiment curieux comme tweet. Je trouvais que la proximité des médias et des politiciens, là, je trouve ça très dangereux.
Il y a quand même une chose qu'il faut garder en tête. Là. Je pense que l'expression « Oprah for president » ne veut pas nécessairement dire qu'il l'endosse pour... président, là, ça je l'ai entendu souvent, cette expression-là en anglais, tu dis telle ou telle personne for president quand ils font quelque chose de vraiment bien. Je pense que c'était plutôt
peut-être
ça.
Peut-être que c'est là. Ça, mais peut-être que pas non
mais,
plus.
Mais derrière ça, il y a eu des rumeurs depuis longtemps que Oprah devrait se présenter comme à la présidence, au présidentiel américain. Ça fait que c'est un peu, je pense que NBC, ils ont utilisé ça pour justement générer des clics. Je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, puis qu'ils savaient qu'en disant ça, que parce que justement il y a ces rumeurs-là, que ça allait leur générer de l'attention des gens qu'ils aiment. Puis justement, les gens qui écoutent Oprah, ben, ils seront peut-être plus aptes à écouter NBC. Fait que, tu sais, ça va bien, là. Tu sais, ils connaissent leur marché. Puis justement, ça... Un exemple concret de qu'est-ce que je viens de dire. Tu sais que c'est pas ça la job de NBC. Selon moi, là, la job des nouvelles, c'est de mettre le speech de Oprah puis nous laisser nous-mêmes décider ce que ça veut dire. C'est pas de nous dire puis d'endosser Oprah pour président 3 ans et demi avant les élections. Give me a break, là. C'est quoi ça, là? Écoute, il y a du chemin à faire avant qu'elle soit présidente, là. Commencer par faire des t'sais, les primaires, faut qu'elle se fasse élire, aux démocrates, faut que... Non, non, give me a break, là, c'est loin d'être fait, là, calmez-vous, là, c'est a bit too much, là, selon moi. Mais tant qu'à ça, on a dit la même chose de Trump il y a 5 ans, fait que...
Tout est possible.
Tout est possible dans ce monde ridicule.
Parlant de ridicule, revenons à Valérie Plante.
On était obligés. On était...
Ben écoute, elle a quand même fait 2 offenses lors de ses premières semaines en fonction. Première offense, c'est qu'elle a blâmé l'administration précédente pour un manque à gagner de 358 millions dans les livres de la ville de Montréal.
Qui est ça, c'est... la tactique la plus vieille en politique ever. Tous les hosties de gouvernement qui arrivent, ils font tout ça.
Tout le monde.
J'ai la difficulté à le croire.
Coderre avait fait ça. Gérald Tremblay avait fait ça. Bourque avait fait ça, Jean Doré avait fait ça, tout le monde fait ça.
Charest avait fait ça.
Un manque à gagner, ce n'est pas un déficit.
Harper avait fait ça.
Tout le monde fait ça. Mais les médias présentaient un manque à gagner comme si c'était un déficit.
Oui!
Et je suis comme, non!
C'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Il n'y avait pas de trou encore.
Un manque à gagner. Dans la loi sur les municipalités du Québec, les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Ils peuvent pas faire des déficits. Il peut pas en avoir. Je trouve que les médias ont fait une mauvaise job pour expliquer ça. J'ai essayé de faire le tour là, des articles qui avaient été écrits suite à cette nouvelle-là. Et je l'ai à peine vu. C'était pas mentionné qu'une ville ne peut pas faire des déficits et qu'un manque à gagner, c'est la comparaison des revenus anticipés et des dépenses anticipées pour le futur. Souvent, c'est parce qu'il y a des projets qui sont échelonnés. Alors là, ben, on se retrouve avec des dépenses qui sont pas encore contrebalancées par des revenus. Fait que là, ben, soit tu peux attendre voir si les revenus vont se concrétiser ou rééchelonner les projets. Plein de choses peuvent être faites.
Ouais.
Un manque à gagner, là, c'est rien de sérieux. C'est sérieux, ça devient un déficit, mais ils peuvent pas en faire. Faut qu'ils balancent leur budget. Fait que savoir, bon, mais comment est-ce qu'ils vont combler cet écart-là? Est-ce que c'est les écarts qui sont dus à des échelonnements de projets? Est-ce que c'est parce que certains revenus n'avaient pas encore été pris en compte? C'est ça qu'on a besoin de savoir.
C'est ça,
ils nous le disaient pas. Ouais. À la place, ils misaient sur manque à gagner, manque à gagner, manque à gagner. Puis pour beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement des connaissances approfondies en finance ou en droit municipal, manque à gagner, c'est comme ben, dans mon budget, il me manque tel montant, donc je donne le trou.
Ouais.
Le journaliste explique pas bien cette réalité-là. Fait que Mme Plante qui se cachait encore derrière un manque à gagner, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était de mauvaise augure. Et ça s'est révélé ensuite...
C'est mauvaise foi, surtout.
Ça s'est révélé vrai. Là, son histoire d'augmentation de taxes. Parce qu'on se souvient, elle avait dit en campagne électorale qu'elle ne voulait pas augmenter les taxes davantage que l'inflation, à peu près comme Denis Coderre avait fait dans les années précédentes. Mm-hmm. Elle a enfreint cette promesse-là. Elle n'a pas été en mesure de la respecter. Mais elle a essayé de placer ses chiffres de façon créative pour dire... Oui, mais en réalité, nous, ce qu'on voulait dire, c'était les taxes foncières. mais la composante, tu sais, un compte de taxes, là, c'est les taxes foncières, les taxes d'eau, les taxes d'arrondissement. Mais c'est comme si elle revenait sur ce qu'elle avait dit, mais elle le dit tellement souvent que n'importe quelle personne peut aller voir sur YouTube ses différents discours et dire « Non, non, t'as pas mentionné taxes foncières là-dedans. » Les taxes, ça veut pas dire taxes foncières, ça veut dire les taxes.
Ça a été un point pivotal dans sa campagne électorale. Elle l'a répété assez souvent là, pour que le message ait été capté.
C'est sur ses pancartes. Plus de bienvenue, moins de taxes.
Qu'est-ce que tu veux de plus de ça? Là? Bon. Si tu peux plus clair que ça, tu meurs.
Elle, ce qu'elle a fait, là, c'est pour ça que c'est malhonnête intellectuellement, elle a fait une moyenne pondérée de la facture de taxes. C'est qu'elle n'a pas pris, mettons, la taxe d'eau est X montant l'année dernière, puis elle va être de temps l'année prochaine, puis on fait le taux de variation entre les deux pour avoir une augmentation. Elle, ce qu'elle a fait, c'est une moyenne pondérée de la facture totale. Fait que, mettons, la taxe d'eau représente X pourcentage du total à payer. Puis c'est le pourcentage au sein de la facture complète qui est calculé. Donc, ce qu'il a fait, c'est une moyenne pondérée. Puis ça, c'est erroné. C'est pas comme ça que tu calcules des augmentations de taxes. Quand on calcule les augmentations de taxes correctement, ça fait une augmentation de 2,5% de la taxe foncière, 10,1% de la taxe d'eau, puis 2,4% de la taxe d'arrondissement. Puis ça, mis ensemble, quand tu attribues les montants réels au prorata du poids de chacune de ces taxes-là, du total à payer hein, sur la facture finale, effectivement, ça fait 3,3% au total.
Oui, mais même 3,3%, là, c'est trop.
Oui, oui.
On est rendu à un point où là, il faut arrêter. Monter les taxes, là, c'est plus une option. Selon moi, là, c'est plus une option. On est taxé là, à quasiment 60% de notre salaire au total. Une fois que si tu es propriétaire et tu as des taxes foncières à payer, des taxes de scolaires, des taxes d'eau, des taxes de ci, des taxes de ça, les taxes d'impôt, les taxes, c'est 60% de ton salaire quasiment qui s'envole. On n'a plus de marge de manœuvre, là. On n'a plus de marge de manœuvre. J'ai un ami qui a commencé à travailler au même bureau que moi la semaine passée. Sa première paye était cette semaine. Il arrive de l'Ontario, puis quand il a vu son chèque de paye, il voulait pleurer parce qu'il n'en revenait pas de nos taxes. La différence pour lui était vraiment grande malgré son augmentation de salaire. Je comprends pas, là. Je comprends pas comment quelqu'un peut dire, spécialement quelqu'un comme Valérie Plante ou Trudeau ou Couillard ou peu importe, peuvent s'installer là puis nous dire qu'ils sont là pour défendre la classe moyenne puis qu'on voit les taxes augmenter année après année. Il faut que ça arrête. Ça n'a plus de sens. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on atteint un point critique puis qu'à un moment donné, là, ça va commencer à aller du mauvais bord.
Mais ça, c'est que ça marche, Gab. Les politiciens laisse toujours entendre que c'est les autres qui vont payer les taxes. Alors, le contribuable, sur le plan individuel, dit tant mieux, ce sont les autres qui vont payer
mais
et pas moi.
Mais on le voit tout, là, on le voit tout. Moi, ma facture de taxe, ça fait juste d'augmenter. C'est depuis que je suis né que ça augmente.
Oui.
Faut être cave en Simonac pour pas se rendre compte que tes taxes y augmentent oui. D'année en année.
Et la job des journalistes devrait être de donner ces informations-là et d'expliquer, mais hein, ils ont leur biais idéologique eux aussi. Quand on voit les journalistes faire les sauts en politique, et on en a eu deux il n'y a pas très longtemps avec Bernard Drainville, puis c'est quoi déjà son nom à l'autre? Était allé au Parti libéral, là, rendu ministre. J'ai oublié son nom, j'ai un petit peu la mémoire.
Il y avait Seamus O'Regan aussi du côté des libéraux fédéraux. Mais ça, c'est un classique.
Il se parle un petit peu trop, mettons.
Oui, les journalistes qui passent au niveau de la politique, ça, c'est un classique, c'est comme ça depuis toujours.
Ça marche. T'sais. Et la plupart des politiciens, on s'entend, Gab, là, c'est bien plus facile de dire « Hey, on a un problème, on va le taxer! » C'est bien plus simple de procéder comme ça, plutôt que de réfléchir à un mécanisme d'incitatif pour donner une raison aux gens de modifier leur comportement sans pour autant le taxer. C'est comme si une taxation, c'est devenu le seul mécanisme correctif auquel les gouvernements ont ressent. Alors qu'il y en a plein d'autres. Et souvent, les gouvernements font fausse route à cause qu'ils n'ont pas les bons réflexes. Une taxe, ça peut être bien pour régler certains problèmes très spécifiques, mais dans la plupart des cas, une taxe, ça ne change rien, ça fait juste réduire le pouvoir d'achat des gens et donc réduire leur liberté. Parce qu'on ne se le cachera pas, une taxe, quand le gouvernement vient faire une ponction dans votre portefeuille, là, c'est que vous lui déléguez du pouvoir d'achat, puis il va décider à votre place. On aurait cru qu'avec le froid qu'il fait en ce moment, ils pourraient garder leurs mains dans leurs poches, mais non! Et non, non, ils vont toujours aller se servir.
Oh, c'est clair. Ils iront même jusqu'à saisir tes comptes de ta banque, s'il faut. Ouais.
Et
essaye pas de te
juste
défendre.
Juste de montrer à quel point c'est... Des fois, ça atteint des seuils absolument ridicules. Je discutais avec une cliente, puis... Elle est dans une situation où elle a trois emplois pour arriver à faire, ça fait mois, trois emplois à temps partiel, parce qu'elle a des jeunes enfants, puis c'était plus facile de gérer son horaire avec plein de petits emplois à temps partiel qu'une job fixe. Puis, elle arrivait à faire un revenu, somme toute, raisonnable durant son année, au coût de beaucoup de sacrifices, mais elle était bien là-dedans, somme toute. Quand j'ai calculé ses impôts, là, son taux marginal d'imposition était près de 75%. C'était absolument ridicule. Wow. Je lui ai dit, si tu quittes le troisième emploi, voici l'argent que tu vas avoir de moins en tes poches. Et c'était beaucoup moins que ce à quoi s'attendait. C'est-à-dire que
toutes les efforts valaient pas.
C'est ça, c'est que l'effort ne valait pas le peu de plus qu'elle avait marginalement, net d'impôts. Wow. Et ça, c'est sans doute c'est notre système d'impôts qui est régressif. C'est-à-dire qu'il punit le travail. Quelqu'un, plus une personne travaille, devrait, à mon avis, avoir plus d'argent dans ses poches. Mais non, marginalement, c'est 1$ de plus vaut de moins en moins cher.
Mm-hmm.
Donc, les gouvernements ont de sérieuses questions à se poser en matière de productivité fiscale, de performance financière, puis de respect de la liberté individuelle. C'est votre argent. Et malheureusement, ça marche. Valérie Plante, elle a fait sa campagne en disant « on va investir dans ci, dans ça ». Mais tout ça, il n'y a rien de gratuit. Ça se paye nécessairement par les poches du monde. Et qu'on se le dise bien, une entreprise, ça paye pas de taxes. Un organisme à but non lucratif, ça paye pas de taxes. Personne ne paye de taxes. Aucune organisation, du moins aucune fiction juridique, là, paye de taxes. Ceux qui payent les taxes, c'est le monde. C'est que ça donne rien de. Souvent, on va entendre ça au Québec solidaire. Des taxes sont les compagnies. Non, une compagnie ne paye pas de taxes. Une compagnie, c'est juste un véhicule financier pour transférer de l'argent. Les seules personnes qui payent du cash, c'est le monde. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour que ce monde-là soit taxé adéquatement. Tu sais, je suis pas pour avoir zéro de taxation, mais on est clairement trop taxé. Puis la question, c'est de savoir. Même, tu sais, peut-être qu'on est taxé correctement, mais c'est de savoir, est-ce qu'on en a pour notre argent?
Ça, non.
Hein? Est-ce qu'on en a pour notre argent?
Non.
Moi, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Je pense que le gouvernement gaspille énormément d'argent dans des niaiseries. C'est fort regrettable.
Je pense qu'on en a plus pour notre argent que les Américains. Eux, ils ont un sérieux problème de gaspillage. Mais on est loin d'être parfait. Je pense qu'il y a encore de la place pour l'amélioration. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de niaiseries, là, des dépenses pour rien. Mais la solution, selon moi, ça ne sera jamais augmenter les taxes. Je pense qu'on atteint, on est proche de remplir le vase.
Bien, c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias. L'espèce de rivalité créée de toutes pièces entre la classe moyenne, les pauvres, puis les très très riches. Puis à chaque année, là, à peu près à les mêmes périodes, là, il y a deux semaines, c'est celui sur les 100 PDG les mieux rémunérés au Canada. Mm. Là, celui d'Oxfam s'en vient probablement vers la fin janvier, parce que année après année, il publie le même torchon. C'est toujours de dire, s'il y a des gens qui ont pas assez d'argent, c'est parce que d'autres leur ont pris. Hein, ils l'ont au détriment. Il y a des gens qui ont de l'argent au détriment des autres. Puis je vous mets en garde, là, Oxfam va publier leur étude bientôt. Puis eux, ils vont dire, mettons, les 50 personnes avec le plus d'argent sur la planète en ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Cet article-là est faux. C'est-à-dire, c'est factuellement vrai de dire, oui, ce petit nombre de plus riches-là a une valeur financière égale à tel autre nombre de personnes. Mais c'est faux de conclure que ces gens-là sont enrichis à leurs dépens. Mettons là qu'on prend le scénario utopique prôné par Québec solidaire d'un gouvernement tout-puissant à l'échelle mondiale qui pourrait saisir 100% des actifs de ce monde-là, soit à peu près 1500 milliards. Ben, ça ferait en sorte que tu pourrais donner à peu près 1,17 par jour à ce monde-là pour à peu près un an. On va arrondir près une pièce par jour. Tu rectues les problèmes de 3,5 milliards de personnes avec une pièce par jour. A contrario, mettons là, que tu dirais, bon, on va le placer à la place. On va prendre 1500 millions, on va le sacrer à la bourse à 5%. Ça te fait des revenus de 75 milliards par année. Ben, ça fait en sorte que tu peux donner 6 cents par jour à ce monde-là. Si tu verses les intérêts seulement. Il n'y a pas de solution miracle. La taxation, là, c'est pas une solution miracle. Tu ne règles pas tous les problèmes de l'humanité en taxant le monde. Il y a des gens qui sont très productifs, qui font beaucoup d'argent, puis c'est à eux. Ils peuvent bien décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Si on veut améliorer la situation des gens, ça passe par une économie productive, par un libre marché, puis par des gens qui améliorent leur situation par leur travail. Non pas par des chèques gouvernementaux qui leur sont versés.
Mais c'est là que je pense que tu as dit une phrase clé. L'amélioration de leur situation par le travail. Je pense qu'un des points que ces magazines-là tentent de faire, là, quand ils parlent de l'écart entre les 500 plus riches puis les 3,5 milliards, moi, ce que je retire souvent de ces articles-là, parce que je vais t'avouer que j'en ai lu quelques-uns mm-hmm. là,
avec les années. Ils sont placardés partout là, oui. quand ils sont publiés. Là.
Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est pas nécessairement qu'on veut régler le problème des 3,5 milliards les plus pauvres. Moi, la manière je vois ça, c'est que l'écart salarial entre les patrons d'entreprise, les PDG, et l'employé moyen a monté, ou l'écart est devenu plus grand encore que de façon exagérée. C'est que ça ne suit pas, mettons, le cours normal de l'économie. Si on regarde, on va dire 50 ans passés, là, quelqu'un qui travaillait comme journalier dans une entreprise était capable de se payer une maison, puis un char, puis avoir, puis sa femme restait à la maison, puis travailler, puis aller élever les enfants, puis tout était correct, il était capable de vivre, il pouvait avoir un train normal. Mais aujourd'hui, là, si t'es journalier à faire des bas dans une usine de textile, tu vas pas te payer une maison pour avoir des. Parce que parce que le salaire n'a pas suivi l'économie. Oui. Puis ça, si tu regardes historiquement, les salaires ont stagné. Ils sont pas montés aussi vite que l'inflation même. Fait que le point, je pense, est plus là. Que ces gens-là ont profité de la situation, de leur pouvoir, en fait, aux dépens de leurs propres travailleurs. Pas aux dépens des 3,5 millions les plus pauvres. Là, la question qu'on peut se poser, selon moi, c'est est-ce que ces travailleurs-là, ils méritent une plus grande part du gâteau ou est-ce que c'est vraiment le PDG puis le board of directors puis tous les actionnaires qu'eux méritent une plus grande part parce qu'ils sont simplement les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise. Puis c'est là le dilemme. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas correct d'avoir des employés qui ne sont pas capables de subsister à leurs besoins parce que tu ne les payes pas assez, pendant que toi, dans ce temps-là, mais que tu as une collection de voitures dans ton garage. Je vois un peu un débalancement là, de ce côté-là. C'est un peu comme, tu sais, à l'époque, au Moyen-Âge, quand les Marie-Antoinette disait qu'ils en mangent de la brioche, mais c'était un peu la même chose. C'était pas bon pour Marie-Antoinette, puis je trouve pas que c'est mieux pour le PDG de General Motors.
Mais sur la question de l'évolution des salaires, c'est un peu évident que si tu doubles l'offre, hein, si tu doubles la main-d'œuvre, ben tu diminues de moitié en même temps la rémunération. L'arrivée des femmes sur le marché du travail est venue débalancer la quantité. Puisqu'au fond, avant, un salaire subvenait. Maintenant, ben, tu doubles le nombre de personnes sur le marché. Donc, ça prend le double de salaire pour survivre. Ça revient au même.
Sauf qu'en ce moment, on a une pénurie de main-d'œuvre, Charles.
Oh, et c'est sûr. Les boomers s'en vont.
On est au plus bas de chômage que, en tout cas, moi, j'ai vu de ma vie, que je ne me souviens pas d'avoir vu des taux de chômage aussi bas. Les entreprises comme General Motors, Ford, Toyota, etc., n'ont pas la même main-d'œuvre parce qu'ils ont remplacé principalement par des machines, beaucoup d'automatisation. Mm-hmm. On connaît la révolution industrielle, qu'est-ce que ça a donné. Puis maintenant, avec l'économie du savoir, on se trouve à avoir ces entreprises-là, ils ont des gens encore plus spécialisés. Donc, ceux qui restent, j'ai de la misère à croire qu'on ne peut pas les payer. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ben,
je vais te donner un exemple. Il y a un mot que tu as dit qui me dérange, puis c'est « mérite ». Qui mérite quoi? T'sais, honnêtement, là, on mérite rien dans la vie. Moi, de mon point de vue, on mérite rien.
Mais j'ai posé ça comme question.
Ouais, moi, c'est mon avis. On mérite rien.
Je
donne un exemple. Bill Gates. Puis je ne mentionne pas Bill Gates pour une chaîne de lettres qui va vous verser $1 million. Là. C'est pas ça. Bill Gates, là, c'est une personne qui a merveilleusement bien réussi à rémunérer, à rentabiliser son temps puis son argent en fondant Microsoft et en n'améliorant drastiquement la productivité de l'ensemble de l'économie. Il a changé le monde en toute simple pratique. Ça y a pris à peu près. Mettons, si on arrondit, là, en 40 ans, après 40 ans de travail, il vaut à peu près 80 milliards. Si on annualise ça, là, à peu près 2 milliards par année. Microsoft verse 5 milliards par année en salaire. Fait que tu te dis, oui, il a fait beaucoup d'argent, ouais, mais dans le processus, pas, il fait vivre des milliers de personnes.
C'est pas les employés de Microsoft qui se plaignent. Non, okay, on s'entend que les employés de Microsoft sont pas en train de se plaindre sur le bord de la rue qu'ils sont mal payés et qu'ils peuvent pas,
oui,
peuvent pas se payer des maisons.
Là. Fait que là, ça, c'est
la même chose.
C'est des emplois à haute valeur ajoutée. C'est des emplois productifs parce qu'ils sont, de un, rares. Hein, tu peux pas les substituer. Un ingénieur informatique, c'est plus difficile à substituer que quelqu'un qui va prendre des commandes dans un service à l'auto. C'est plus difficile à trouver. C'est plus compétitif pour l'entreprise.
Ouais, mais je te dis pas que le gars qui travaille ou la fille qui travaille service de commande à l'auto, t'as pas besoin de la payer 100 000$ par année non plus. Là.
Non, je sais, mais ce que je te dis, c'est que c'est normal que la valeur perçue du travail varie.
Oui.
C'est normal qu'il y ait des écarts. Et là, la question,
c'est est-ce qu'elle mérite juste 8$ l'heure? Ou est-ce qu'elle mérite juste... C'est là, je trouve que c'est...
C'est un jugement de valeur qui doit être fait, pour moi, qui doit être négocié entre les deux personnes.
Mais tu peux pas.
Oui, tu peux.
Non, tu peux pas.
Oui,
parce
oui.
que la personne qui fait le service au volant n'a pas le pouvoir de négociation. Elle est dans une position où elle ne peut pas négocier.
Au contraire, elle a le plus grand outil de négociation.
Il va dire « Va-t'en dehors, bye-bye ».
Exact, exact. Elle va aller voir ailleurs.
Parlera rien.
Si ça... Non, mais attends.
Pour négocier, là, pour qu'une négociation soit juste, il faut que les deux personnes soient à un équivalent de pouvoir. Puis dans cette situation-là, la personne qui est au volant, mettons, qui veut travailler chez McDo, n'a pas de pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. Elle doit se soumettre aux conditions qui lui sont données. Puis c'est de là que ça vient, ce débalancement-là. Fait que oui, c'est vrai que si la pénurie continue à s'augmenter, on l'a vu dans l'Ouest canadien, à un moment donné, travailler chez McDo en Alberta, te rapportait 20$ l'heure. Tu peux aller travailler au Tim Hortons à 20$ l'heure dans le nord, près des bitumineuses, des sables bitumineux. Puis tu sais, c'était quand même pas pire pour travailler. Mais dans ce cas-là, on pourrait même argumenter que la personne qui appliquait avait un certain pouvoir parce qu'elle offrait un service que l'autre avait vraiment besoin s'il voulait vendre son café. Tandis qu'ici, au centre-ville de Montréal ou à Québec ou à Rivière-du-Loup, le petit jeune qui se présente pour aller vendre des hamburgers au McDonald's, il n'y a aucun pouvoir, zéro. Peut-être qu'à 15 ans, c'est normal que tu sois payé un petit peu moins. Mais quand ça fait... Tu sais, 20 ans que tu travailles là, puis que tu as l'expérience, puis que tu es rendu chef de corps ou gestionnaire du restaurant, puis que tu es encore payé à des petites miettes, je trouve que là, c'est là qu'il y a un débalancement de pouvoir.
Mais mettons que tu veux vendre quelque chose sur Kijiji, là, si tu demandes trop cher, tu le vendras pas.
Ah ouais.
Le meilleur argument que les gens ont, s'ils disent, moi là, je vaux plus que ce salaire-là, ben, prouve-le, va ailleurs. That's it. That's it, ça arrête là pour moi. L'argument de négociation, le meilleur argument, tu vois ce que tu me sors avec les rapports de force, là, c'est ce que les syndicats mettent de l'avant, mais ça n'a aucun écho dans la littérature économique. Ce qui protège véritablement les travailleurs... Attends, laisse-moi venir, Gab. Arrête de mansplainer.
Tu vas te faire mansplainer par la gueule. Dans la littérature économique, le pouvoir, c'est ça qui les mène. C'est sûr qu'ils vont pas aller contre
Laisse-moi finir, Gab. Ce qui protège les travailleurs, c'est leur capacité d'aller voir ailleurs s'ils jugent qu'ils sont maltraités. Puis s'ils jugent que leur salaire devrait être plus élevé parce qu'ils sont capables d'être plus productifs, ben qu'ils le fassent.
Ouais.
Mais ils le font pas parce qu'ils savent que leur salaire... Ils pourraient pas avoir plus que ça ailleurs. Autrement, ils le feraient.
Je pense pas que c'est vraiment ça.
Puis je te ramène au podcast qu'on a fait sur le salaire minimum. Je pense que c'était l'été dernier.
Ouais.
On a regardé c'était quoi le profil type des gens sur le salaire minimum. Puis c'est du monde, là. C'est, en grosse partie, 60% c'est les étudiants. C'est des gens qui travaillent à temps partiel. All in all, là, 90% de ces gens sur le salaire minimum sont au-dessus du seuil de la pauvreté. Puis ceux qui le restent, là, les quelques... irréductibles gaulois là, qui restent pauvres là, toute leur vie, à un moment donné, c'est en quelque part un peu de leur faute.
Oh, là, j'ai... Ça, j'aime...
Il y a des gens qui, effectivement, qui ont, par exemple, soit un retard intellectuel ou
Il y en a qui ont juste ça. Des situations de merde.
Oui, oui.
Tu sais, qui sont faites laisser là avec quatre enfants par leurs ex ou tu sais, qui ont eu des problèmes financiers ou qui ont été malades ou qui ont eu... Puis qui n'ont pas d'assurance.
Oui, il y a des gens qui ont pris des mauvaises décisions.
Il y a des gens qui ont eu vraiment des problèmes de merde. Puis ces gens-là... Ils n'ont pas de pouvoir. Ils peuvent pas. Ils sont pognés à faire ça. Puis c'est là le vrai problème, en fait.
Oui, moi, je n'ai aucun problème parce que s'il y a une communauté qui veut leur venir en aide, aucun problème avec ça. Mais on n'a pas imposé, mur à mur, une... on fera pas le podcast au complet sur ça à minimum, mais le point, c'est que présentement, je trouve que le dossier est mal posé. On oppose les petits travailleurs qui sont en grosse partie des étudiants, puis... On va mettre une loi qui va à tout un pratique les price out du marché.
Là, on parle pas des petits travailleurs qui sont en grosse partie des étudiants. Si tu prends une compagnie comme, je sais pas, attends, trouvons un exemple là. Pas, tu sais, peut-être comme une compagnie qui fait, je sais pas, qui fait des balais. Tu prends pas un exemple. Mais les gens qui travaillent dans l'usine de balais, là, c'est pas des étudiants. Ils sont là à temps plein.
Ouais.
C'est ça leur vie. Puis ils ont le chef, le PDG, puis les actionnaires, puis tout ce monde-là qui se remplissent les poches sur le dos des employés.
Non, je suis d'accord.
Mais oui, c'est ça que c'est.
Non.
Ils vont se ramasser avec les gens qui n'ont pas le choix d'être là, qui travaillent toute
leur
vie.
Oui, ils ont le choix d'être là. Ils pourraient aller ailleurs.
Ils finissent pour avoir des problèmes des problèmes physiques, des problèmes de maladie, des problèmes de...
Qui les contraint à rester dans cette usine-là?
Ils n'ont pas le choix, Charles.
Ben oui, ils ont le choix.
Mais non!
Gab, ils peuvent déménager, ils peuvent changer d'emploi. Le monde change d'emploi tout le temps.
Ça, là, c'est fallacieux de dire que quelqu'un peut juste se lever, puis changer d'emploi, puis déménager. C'est pas vrai,
Tu l'as fait, toi, quand t'es venu à Montréal dans les années 90?
Je l'ai fait. OK, oui, fine, je l'ai fait. Mais pourquoi j'ai été capable de le faire? Parce que, un, j'étais un petit peu con, je l'avoue. De deux, j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfant, j'avais aucune attache, j'avais pas de dette, j'avais rien pour m'attacher. Puis si je me mettais dans la marde en déménageant à Montréal, je mettais moi dans la marde.
Mm-hmm.
Je mettais pas une femme avec des enfants ou d'un partenaire ou peu importe. T'sais, c'était le risque que moi, je pouvais prendre en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de ces gens-là, quand tu as une famille, quand tu as des enfants, tu peux plus faire ça. Là. C'est pas vrai là, que tu déménages ta petite famille, puis que tu les changes d'école, puis que tu les amènes dans une autre province juste parce que tu as entendu dire qu'il y avait une job à Alberta à 20$ l'heure à travailler au Tim Hortons. Okay? C'est pour ça que je dis que c'est pas aussi simple que juste dire tu déménages puis tu vas chercher un autre job. C'est pas tout le temps possible. Ou du moins, c'est pas aussi facile pour bien des gens que ça. Parce que si t'es là, si t'es pogné dans ce système-là, puis tu vis de chèque de paye en chèque de paye, t'as pas le cash pour déménager en Alberta. Là. Tu l'as pas. Ça prend du cash pour te rendre à Alberta. Comme ça a pris du cash pour venir à Montréal. J'étais peut-être ticu là, dans ma petite maison à Moncton avant d'arriver, mais j'avais quand même ce que dans le temps, je croyais qu'il était beaucoup d'argent. Là. Moi puis mon ami André, quand on a déménagé ici, on avait 2000$ à nous deux pour déménager à Montréal, puis c'était ça notre coussin. On n'aurait pas fait pareil avec une famille.
Mais c'est sûr qu'il faut prendre des décisions en fonction de notre situation, évidemment. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui protège véritablement les travailleurs. C'est leur capacité à s'en aller. Et si un employeur perd ses employés parce qu'il n'est pas compétitif, ben, il n'y aura pas le choix de le considérer puis d'augmenter la rémunération. Il y a une relation entre la rémunération puis la rareté. Et si les gens n'ont jamais eu l'occasion ou qui n'ont jamais pris leur responsabilité pour y arriver, là, pour quelque raison que ce soit, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment de levier de négociation. Ils vont être pris avec des jobs peu productifs. Puis ça, en quelque part, bien souvent, c'est pas mal leur faute. Au Canada, là, c'est assez simple de ne pas être pauvre. Fini ton secondaire 5. Et pas d'enfant avant d'être marié, mettons. Puis travailler à temps plein. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le font même pas. Ils se ramassent. Beaucoup des gens les plus pauvres au Canada, c'est des mères monoparentales qui ont eu des enfants à l'adolescence.
Oui,
c'est des très mauvais choix de vie, puis ça a des conséquences économiques.
Des choix de vie, des fois. Charles, des capotes, ça pète. Des erreurs, ça existe. Il n'y a pas une méthode de contraception qui est 100% faillible. Qui est 100% infaillible. Tu peux prendre les meilleures décisions du monde, là, puis quand même, il peut t'arriver.
Oui, je suis d'accord. Il y a plein de bad luck. Mais le point, là, c'est qu'il faut remettre la responsabilité sur l'individu. C'est pas à l'ensemble de la société de changer pour compenser une personne qui a eu une mauvaise bad luck.
Pourquoi est-ce que dans une société comme la nôtre, où on est parmi les pays les plus riches du monde, où qu'on a des entreprises qui font X nombre d'argent, puis c'est souvent même des quantités astronomiques d'argent, qu'on regarde ceux-là qui ont eu vraiment un mauvais jeu dans la vie, puis qu'on leur dit, bah, too bad.
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit consensuel. Si tu veux faire un don à un organisme de charité qui vient en aide à ces personnes-là, grand bien te fasse. Mais là, ce qui arrive présentement avec la taxation, qui augmente d'année en année, c'est qu'on délègue les décisions de cette nature-là à des politiciens, et qui, eux, ensuite, émettent des chèques à qui ils veulent en fonction de ce qui les avantage ou les désavantage, ou bref, de leur plateforme. Moi, je préférerais, je serais le premier à faire des dons à des organismes de charité pour venir en aide à ces gens-là.
Moi, j'en fais plein déjà des dons. J'en fais. Je suis sûr que si je regarde la moyenne de qu'est-ce que je fais, c'est probablement beaucoup plus élevé que bien des gens.
Mais c'était ça avant aussi.
Mais le problème que j'ai, Charles, c'est que ce système-là est peut-être correct aujourd'hui, là. Mais si on se projette 50 ans dans le futur, là, le problème va être acerbé parce qu'il y aura tellement de gens qui n'auront plus de job. Là. Les petites jobs, petites jobines, là, ils vont disparaître.
Ben, c'est sûr que
même chauffeur d'autobus, ça va disparaître. Mais... même chauffeur de camion.
Oui, je suis d'accord.
On va avoir des problèmes. Là. Puis de dire, je trouve ça complètement absurde de laisser la responsabilité seulement au marché parce que dans pas long, là, ça va être plus problématique, je pense, que ça l'a jamais été, puis ça va être le rôle du gouvernement de s'assurer que son peuple n'est pas en train de crever dans les rues. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Fait qu'il faut réfléchir maintenant à notre méthodologie de taxation, puis notre compensation.
Non, mais c'est pas ça qu'ils font, vraiment. Ce qu'ils font, c'est juste augmenter le salaire minimum.
Je le sais, ça n'a aucun sens.
Le salaire minimum, là, tout ce que ça fait, c'est price out du marché des gens peu productifs.
Exactement.
C'est tout ce que ça fait. Et d'ailleurs, ça a été historiquement implanté pour...
Ce qu'on regarde ce qui s'est passé en Ontario, là, oui, tabarnak, ça fait juste 2 semaines, puis c'est déjà le bordel.
Ben, si on remonte à l'histoire du salaire minimum, à la base, c'était implanté... je me trompe pas, je pense que dans les années 30 que ça a été mis en place en premier dans la Colombie-Britannique, puis c'était pour price out les immigrants du marché. Évidemment, les syndicats sont toujours en faveur des augmentations de salaire minimum parce que ça protège leurs membres et ça fait en sorte qu'il n'y a personne qui peut les compétitionner en offrant de travailler pour moins. Aux États-Unis, c'est le Davis-Bacon Act des années 30 qui est venu mettre un prix plancher sur les contrats du gouvernement parce que les syndicats du Nord se faisaient complètement déclasser par les compagnies de construction du Sud, qui étaient d'ailleurs en grande partie... occupé par des Noirs. La construction dans le sud des États-Unis, là, c'était quasiment juste des Noirs. En dépit de toutes les tensions raciales, hein, au final, dernier mot, c'est un chiffre, puis s'ils travaillent pour moins cher que les autres, ils vont se faire embaucher, ils vont travailler, ils vont pouvoir payer leurs billes. Dans le sud des États-Unis, ça posait pas problème. À un point tel qu'ils ont pris...
Mais ça posait pas problème, il y avait pas le choix. Il était un peu là...
Oui, mais travailler, ils se faisaient payer. C'est pas de l'esclavage, là. Hein? Puis là, les autres sont arrivés dans le Nord en disant hey, on va prendre de l'expansion, on va aller soumissionner sur les contrats en Nord. Et les syndicats du Nord n'ont pas aimé ça. Ils ont fait passer le Davis-Bacon Act, je pense que c'était en 1931 aussi. Puis pour casser cette compétition-là, les prix donnent de l'information sur la valeur des choses. Et pour moi, le salaire minimum, ça devrait être 0$. En fait, c'est déjà 0$. Ça s'appelle du bénévolat. Il y a plein de gens qui font du bénévolat. Je pense que c'est pas loin de. Ça a une valeur à peu près de 3 milliards par année au Canada, le bénévolat, en équivalent de rémunération. Mais présentement, c'est qu'il y a de moins en moins d'écart entre le bénévolat puis le salaire minimum. Puis ça fait en sorte qu'il y a plein de gens dont le niveau de productivité se situerait entre les deux. Ce monde-là n'a plus accès à des emplois, ce qui vient exacerber l'automatisation puis la mécanisation. En quelque part, on pourrait dire, si on est un peu cynique, que les augmentations de salaire minimum vont favoriser les investissements en nouvelles technologies.
Probablement. C'est pas, je pense pas que c'est si cynique que ça. Là.
Non,
parce que honnêtement, là, Tim Hortons, s'il voudrait, là, il pourrait
complètement... Moi, je veux qu'il reste des jobs pour les jeunes. Là.
Tim Hortons pourrait automatiser à 100% le restaurant, s'il voulait. Ce qu'ils offrent comme produit, là, ça se fait par la machine. Café, là, nous autres au bureau, le café, il est automatisé. Tu appuies sur un piton, puis ça te crache du café. Mais Tim Hortons, il pourrait faire pareil. Tu sais, des beignes, là, ça doit s'automatiser, ça aussi. Je peux pas voir que c'est si compliqué que ça. Je suis d'ailleurs, les beignes qui nous servent maintenant au Tim Hortons, je suis convaincu que c'est fait par des machines. C'est bon point, ça.
Mais c'est ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est les jobs d'entrée. C'est que le premier barreau de l'échelle de la productivité est de plus en plus haut, puis à un moment donné, les gens ne pourront plus sauter pour l'atteindre. Fait qu'en voulant les aider, en voulant aider, tu sais, comme tu dis, les gouvernements prennent ça en charge, en voulant aider les personnes, ça a l'effet inverse. Puis je comprends, tu sais, je sais que je sonne un peu sans cœur, là, mais c'est que si ta démarche politique n'est pas fondée sur, hein, c'est un mot à la mode, là, le consentement, sur la liberté, ça va échouer, invariablement. Il va y avoir une correction qui va opérer. Puis, je voulais revenir un peu sur les chiffres des méchants PDG. Parce que c'est sorti là, au début de l'année. Ils gagnaient 200 fois le salaire moyen de leurs travailleurs. Puis j'étais là, un instant. Un instant, essayez de nuancer un petit peu. Parce que ça fait des beaux titres, mais au final, ça dit pas grand-chose. Fait que si on inclut, ça c'était les 100 meilleurs. Mais comme toute hiérarchie d'excellence puis de productivité, hein, on la retrouve dans le marché du travail avec les PDG, mais on la retrouve aussi en musique, on la retrouve dans les sports, on la retrouve dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment très, très hauts dans cette hiérarchie-là et qui accumulent beaucoup d'argent. Je pense que je l'avais déjà mentionné, mais il y a un économiste au 19e siècle qui s'appelle M. Pareto, qui a établi la distribution de Pareto, qui montre que dans n'importe quel secteur de la vie, n'importe lequel, il y a très peu d'élus qui ramassent la majorité des ressources parce qu'ils sont tellement meilleurs que les autres. C'est comme tellement meilleurs que les autres. À un point tel que c'est difficile à battre parce qu'ils sont vraiment supérieurs aux autres. Pour une raison ou une autre, le marché leur envoie plein de revenus. Ben, là, ici, on fait ça. On prend les 100 meilleurs PDG. Si on prenait les 100 meilleurs sportifs, les 100 meilleurs artistes, ou peu importe, n'importe quoi dans lequel on peut classer les gens, les 100 meilleurs sont toujours bien au-dessus de la moyenne. Mais si on inclut tous les PDG, au lieu d'avoir un écart d'à peu près 200 fois, on arrive avec un écart de 42 fois, quand on prend tous les PDG. Puis quand on prend la moyenne, quand on regarde le salaire moyen de tous les chefs d'entreprise au Canada, c'est 125 000, soit à peu près 3 fois le ratio du salaire moyen au Canada. C'est quand même pas excessif. Moi, je vois pas ça comme étant l'apocalypse ou qu'on est sous le bord d'une crise sociale quand le PDG moyen au Canada gagne 3 fois le salaire de l'employé moyen. Non?
Complètement d'accord. Sauf que la différence avec ce PDG-là, puis le PDG d'il y a 50 ans, puis l'employé normal d'il y a 50 ans, c'est que son niveau de vie n'a pas suivi. C'est ça le problème.
Ah, mais je suis pas d'accord avec ça.
Oui, c'est clair. Tu le regardes.
T'as peu, écoute, là.
Non, non. Le 50 ans passés, le gars qui travaillait dans une usine pouvait se payer une maison, puis un char, puis avoir un beau terrain. Aujourd'hui, le taux de la vie a augmenté à tel point que ce même employé-là, dans la même usine, pour la même compagnie, son salaire n'a pas suivi le même taux. C'est un fil. C'est plus...
Oui, je suis d'accord que...
Puis c'est un des problèmes, mettons, si on regarde les millennials là, qu'on aime tant chier dessus, si on regarde... ils disent que les millennials sont parmi la génération qui adhère le moins à l'achat des maisons, mais une des raisons qui est citée, justement, c'est ça, c'est parce que leur salaire ne les permet pas d'avoir accès à la propriété. C'est aussi simple que ça. Parce que dans le calcul, pas le calcul, mais dans l'évolution des salaires, puis dans l'évolution du coût de la vie, il y a eu une disparité au fil des années, puis maintenant, tu en as un qui est beaucoup plus élevé que l'autre, donc ça n'a pas suivi. Puis c'est ça le problème qu'ils essayent de relever dans ces sondages-là. C'est pas de dire que c'est nécessairement c'est à cause de ces milliardaires-là qu'on a de la pauvreté. On arrête de la pauvreté, peu importe. Puis c'est pas eux autres qui vont payer pour les Starving Marvin en Afrique, là. C'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a quand même eu une évolution où la balance a été plus vers le haut que vers le bas. Je pense que c'est plus ça le point qui essaye d'être fait. Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais la lecture de ces articles.
Mettons que tu as 2 000$ aujourd'hui versus 2 000$ dans les années 40 ou les années 50. Tu préfères dépenser ton 2 000$ quand?
Il y a dans les années 50.
Oui! Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'acheter... téléphone, tu peux t'acheter des voitures très abordables, tu peux t'acheter des vêtements très abordables. Ton 2 000$ va beaucoup plus loin aujourd'hui en matière de variété de produits.
Non, il va pas beaucoup plus loin.
Mais oui.
Aujourd'hui, voyons donc!
Les pauvres aujourd'hui ont accès à plus de services que les riches dans le temps.
ma mère pouvait s'acheter un Pepsi avec, avec 5 cents. C'est pas vrai, là. Ton 2000$ en mettons, en,
oui.
en
19...
La, je, exemple concret.
Je suis d'accord pour les biens qui n'ont pas changé.
Exemple concret. La ferme de mon père, quand il se l'est acheté en 1978, ils ont payé même pas 100 000$ pour cette ferme-là. Il y avait des tracteurs dessus, sans arpents, de l'équipement de ferme, une énorme maison, 6 chambres à coucher, sur le bord d'une rivière avec du terrain, un auto, deux camions, ils ont payé 100 000$. Aujourd'hui, cette ferme-là, puis c'est pas nous autres qui l'appartient, là, fait que venez pas dire qu'on est des riches parce qu'on ne l'est pas, cette ferme-là est évaluée à quasiment 2 millions de dollars. C'est pas vrai, là, que mon père, en 1974, qui avait aucun argent, qui avait à peine assez d'argent pour mettre son 10-15% pour la mise de fonds, là, il n'achèterait pas la ferme. Oublie ça, c'est impossible.
Oui, mais
c'est
ça, c'est
impossible.
C'est deux choses différentes.
C'est la même affaire!
Non. Oui! Au niveau de l'immobilier, c'est différent.
C'est immobilier!
Parce que la valeur de l'immobilier, c'est largement spéculatif. Et un autre élément de l'immobilier, c'est que les gouvernements, en voulant aider les gens, donner des avantages fiscaux ou alors des rabais ou des choses comme ça, ont augmenté artificiellement la demande, ce qui a fait augmenter les prix, ce qui contribue à les rendre de moins en moins accessibles. Ça devenait un cercle de conneries qui fait en sorte que les prix augmentaient pour rien. C'était une bulle, hein, c'est ce qu'on appelle une bulle. On en a une au Canada, une bulle en immobilier, puis c'est une des bonnes décisions de Justin Trudeau, c'est d'avoir enlevé les garanties du gouvernement sur les prêts hypothécaires. Parce que ça faisait en sorte que des gens qui ne devraient pas s'acheter des maisons s'en achetaient, et ça faisait augmenter les prix dans l'ensemble de l'économie. Donc, ça rendait les maisons de moins en moins abordables. Moi, je te parle strictement au niveau de la disponibilité des biens. Il y a plus de choix aujourd'hui.
Oui.
Les gens pauvres sont bien plus heureux d'être pauvres aujourd'hui que dans les années 50. Parce qu'ils ont non, mais c'est un progrès en soi.
Franchement, Charles,
Gab,
comment tu fais pour déterminer que les gens pauvres sont plus heureux aujourd'hui?
Il y a bien plus de, de services, de produits.
Je crois pas qu'ils sont plus heureux aujourd'hui qu'ils étaient dans les années 50, I don't believe it. C'est. S'il y a quelque chose, ils sont peut-être même plus malheureux parce qu'on est des sociétés encore plus consommatrices et encore plus matérialistes qu'on l'était il y a 50 ans. Tu sais, moi, mais j'ai vu les conditions dans lesquelles mon père il a grandi. Là. Écoute, il était 18 enfants chez lui. Mon grand-père, il coupait du bois pour vivre. Là. Tu sais, je peux te garantir, ça vivait pas riche.
Oh,
là.
Oui, d'accord.
Puis, il
était
pas,
ça aujourd'hui?
Il était pas moins heureux que les pauvres d'aujourd'hui.
Je te parle pas de bonheur de vie. Parce que je suis d'accord que ça, c'est quelque chose qui se mesure différemment. Mais je te parle justement d'accès à des produits et services à un prix abordable. Les gens peuvent se payer plein de shit, là, dont ils n'ont pas besoin, mais ils peuvent se les payer pareil. Tu regardes, tu sais, je fais beaucoup de bénévolat avec des organismes, puis je les vois, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche. Ils ont tous des téléphones intelligents. Puis c'est correct, il y en a plein qui sont pas chers. Ce qu'on appelle des téléphones budget, là, des budget phones, ils ont tous. Ils ont accès à des soins d'optométrie, des soins de dentiste.
Mais ça, c'est pas, ça n'a pas rapport avec le...
Tout le monde a l'air climatisé, ils ont toute la plomberie chez eux. On compare les standards de vie en Occident, puis c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Oui, mais c'est dans 10 ans, on va dire la même affaire, que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Oui, parce qu'on s'améliore.
On s'améliore, c'est clair qu'on s'améliore, mais ça n'enlève pas le problème des salariés qui n'ont pas vu leur rémunération augmenter au même rythme que ceux de l'inflation ou des CIO ou du coût de la vie. Fait que c'est pour ça que je dis que il y a une disparité à ce niveau-là, puis c'est ça le problème. C'est que les employés ne bénéficient pas de la possibilité de vraiment exercer un pouvoir. Pour qu'ils aient un pouvoir réel, pour qu'il y ait un pouvoir pour eux de négocier ces salaires-là, il faut qu'ils aient des options réalistes. Et en ce moment, ils n'en ont pas nécessairement.
Qui donne ces options-là, Gab?
C'est le marché qui donne ces
options. Le marché, exactement.
Le marché, en
et
ce
le
moment,
gouvernement,
est injuste. Non,
le gouvernement.
Le gouvernement, il gouverne. Il ne crée pas le marché.
Le gouvernement.
C'est pas sa job au gouvernement de créer le marché.
Le gouvernement.
C'est de mettre le cadre législatif qui entoure le tout.
Le Québec occupe 30% du PIB au Québec.
Ouais, mais ça, c'est.
C'est un acteur économique.
C'est problématique.
Oui. C'est la même chose dans le reste du Canada. C'est la même chose aux États-Unis. Le gouvernement a une part croissante du PIB.
Ouais.
Donc, c'est de moins en moins le marché, en fait, qui arrive à s'équilibrer par des mécanismes normaux.
Donc, si on dit que c'est le gouvernement qui prend 30% du PIB, puis c'est un peu grâce à lui si on a ce problème-là, donc ce ne serait pas au gouvernement de le régler?
Oui, mais ça veut dire qu'il faut le régler pas par, en augmentant la part du gouvernement dans l'économie.
Non, je suis d'accord.
Et c'est ce que les partisans de diverses formations politiques, Québec solidaire, veulent faire. Ils veulent augmenter la taille du gouvernement. Puis je suis comme, non, on ne règle pas un problème d'incendie en garochant de l'huile. Tu sais, non, le gouvernement, le gros problème, c'est qu'en voulant bien faire, il nuit aux personnes qui veulent aider. Puis je comprends le discours empathique, je comprends, mais la seule chose qui peut aider les gens à sortir de leur situation défavorable, c'est de travailler de façon productive dans un marché libre. Ce sont... peut-être qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail, mais moi, je vois ça, tu sais, avec d'assez mauvaises augures, là, de l'interventionnisme d'État.
Bon, Charles, je vais te laisser le dernier mot. Parce que je pense qu'on pourrait en discuter.
Parce que c'est un débat intéressant.
Une crise de bout.
Mais c'est le même débat qu'on avait dans les années 80, dans les années 70.
C'est souvent les mêmes débats qui reviennent, en fait.
Absolument. C'est surprenant, parce que pourtant, tu sais, on en a parlé justement dans l'épisode du podcast sur le salaire minimum, le cas de Seattle, on a vu, ça nuisait aux gens qu'on voulait aider, puis là, l'Ontario persiste et signe, et pendant ce temps-là, t'as Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que Couillard manque de courage.
Je fasse la claque.
Puis je suis comme, non, Couillard est cohérent avec la littérature scientifique qui dit, ben effectivement, on regarde... C'est même pas de la théorie, là. C'est des vrais chiffres.
Il faut trouver une façon de l'inviter au podcast face à claque, là. J'aimerais tout ça.
Il viendra pas si tu continues à l'insulter, Gab. T'es contre-productif. Tu me rappelles un peu le gouvernement.
Viens-t'en, Gabriel Nadeau-Dubois. On t'aime!
Non, mais le point, là, c'est qu'on... C'est pas de la théorie, là. C'est pas du frou-frou, du pelletage de nuages, là. On a regardé les chiffres réels de Seattle suite à deux augmentations marquées du salaire minimum, là. Puis les deux fois, c'était négatif pour les personnes qu'on voulait aider. Moins d'emplois disponibles, moins d'heures disponibles, moins d'avantages sociaux aux employés. Parce qu'une compagnie, là, ça n'existe pas. C'est une fiction. C'est juste un véhicule pour déplacer de l'argent puis donner des services. That's it. Ça ne paye pas de taxes, ça ne paye rien. Fait que si, comme dans le cas de l'Ontario, on augmente la masse salariale de 30%, c'est sûr qu'il faut qu'ils coupent ailleurs. Puis à cause qu'ils sont dans un marché compétitif, plein de biens substituts, ils peuvent pas augmenter leur prix.
Et bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là cette semaine. On a, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Je vous rappelle, écoutez, si vous pensez qu'on est des caves, vous laissez-nous donc des messages. 1-888-458-4443. 1-888-458-4443. On a notre page Facebook, facebook.com/québecquoibalado. On a aussi notre site web, québecquoi.ca. Et n'oubliez pas de nous suivre sur iTunes, Stitcher ou Google Play. On est partout. On est comme Dieu, en fait. On est partout. Et encore une fois, on vous remercie tous d'être là pour nous écouter. Et à la prochaine. Au revoir, Charles.
Au revoir.